Béni soit le Seigneur, sa grâce, pour son amour, sa fidélité et encore cet après-midi, oui, sa présence, parce que nous croyons vraiment que Dieu est présent parmi nous, par son esprit. Même si nous ne le voyons pas, nous sommes certains, convaincus que Dieu est là et que Dieu veut agir, que Dieu veut se manifester. Il l'a déjà fait, je le crois, au travers de ces cantiques, il parle à nos cœurs. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans la première épître à Timothée, 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15, afin d'entendre, recevoir cette parole, oui, qui vient de Dieu, et qui donne la vie, véritablement. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Amen. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Cette parole, elle est certaine, elle est fidèle, elle est entièrement digne d'être reçue. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité, parce qu'elle est la vérité, parce que cette parole, elle ne vient pas d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est celui qui veut que tous les hommes, sans exception, parviennent à la connaissance de la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est ce que Dieu veut. Cet après-midi, c'est ce que Dieu veut, nous donner de connaître la vérité. Parce que, plus de cela, Dieu est celui qui se révèle à ceux qui le cherchent, mais parfois même à ceux qui ne le cherchent pas. Mais je crois que si cet après-midi vous êtes là, c'est quand même qu'il y a une démarche de votre part. Et la Bible dit que celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche la vérité, trouve. Et il n'y a pas 36 000 vérités. Parfois on entend c'est votre vérité, ça c'est ta vérité, c'est pas la mienne, mais il n'y a qu'une vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cet après-midi, Dieu est celui qui veut nous donner de connaître la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il veut libérer nos vies, libérer nos cœurs à l'égard du mensonge, mais aussi à l'égard du péché, à l'égard de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est pourquoi cet après-midi, il n'y a aucune retenue à avoir. Aucun rejet qui peut être excusable, parce que cette parole, elle est entièrement digne d'être reçue, comme on l'a vu, mais cette parole, elle restaure. La Bible dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Sa parole, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Et la parole de Dieu est là cet après-midi pour restaurer nos vies, pour restaurer nos cœurs, pour nous donner de connaître Dieu, pour nous donner de nous approcher de lui, nous donner de connaître le chemin qui mène à lui, et pour nous donner d'être de pouvoir justement y arriver, marcher dans ses voies. Et cette parole que Dieu veut nous annoncer, qui est certaine, entièrement digne d'être reçue, bien, laquelle elle est ? Eh bien, c'est que, nous le voyons dans ce verset, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde. Voilà la parole que Dieu veut nous annoncer. Jésus-Christ est venu dans le monde. L'existence de Jésus-Christ n'a pas commencé quand il est né de la Vierge Marie sur cette terre. Jésus-Christ existe de toute éternité. Jésus-Christ n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il existe de toute éternité. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Dieu est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pour cela que ce verset dit « Jésus-Christ est venu dans le monde ». La Bible dit que Jésus a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous. Et on voit pourquoi il est venu dans ce monde. La raison principale, c'est pour sauver les pécheurs. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà la volonté de Dieu. Dieu veut que cet après-midi, tous les pécheurs, sans exception, soient sauvés. Parce que le péché nous amène à la ruine, nous amène à la mort, nous amène à la mort éternelle, à être séparés de Dieu pour l'éternité dans un lieu de souffrance, de grincement de dents. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, on le voit clairement. Et dans son amour, dans sa grâce, Dieu nous parle cet après-midi pour que nous soyons sauvés. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons pour justement l'éternité avec lui, dans sa présence, dans la paix, dans le bonheur, dans un lieu où il n'y aura justement plus de souffrance, plus de larmes, plus de deuil, mais où il y aura une paix éternelle, un repos éternel. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour que tous les pécheurs soient sauvés. Mais connaissez certainement cette chanson qui existe dans le monde et qui dit qu'on ira tous au paradis. Justement, le Seigneur ne nous dit pas cela dans sa parole. Dieu ne nous dit pas cela parce qu'il nous annonce la vérité. Et il nous montre que tous ne seront pas sauvés. C'est sa volonté de sauver tout le monde, mais tous ne seront pas sauvés. Seuls ceux qui l'auront accepté, seuls ceux qui se seront tournés vers lui, seuls ceux qui se seront repentis, comme on l'a chanté, qui l'auront accepté, qui se seront approchés de lui. Et dans ce passage, on voit un homme qui a reconnu cela, qui a accepté Jésus-Christ. L'homme qui annonce cette parole, il s'agit de Paul. C'est Paul qui parle, qui annonce ce verset, qui a écrit ce verset. Mais au travers de cette parole, c'est Dieu qui nous parle. Néanmoins, c'est l'expérience d'un homme et qui nous ouvre son cœur. Dans ce verset, on voit comment Paul se considérait. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et c'est ce sur quoi j'aimerais m'arrêter un instant avec vous cet après-midi. Paul était-il véritablement le premier des pécheurs ? Paul était-il véritablement le premier des pécheurs ? Qui était véritablement le premier des pécheurs ? Est-ce que vous le savez ? Qui étaient les premiers des pécheurs, les premiers êtres qui ont péché ? Adam et Ève. Et j'aimerais voir cela avec vous dans Genèse. Regardez avec moi justement ce passage où on voit cette vérité. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et regardons ensemble à partir du chapitre 3, verset 1er, Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » On voit donc dans ce passage, le premier livre de la Bible, à partir du chapitre 3, le péché des premiers êtres humains. Adam et Ève, les premiers êtres qui ont été créés par Dieu, peu de temps après, on ne connaît pas le laps de temps qu'il y a eu entre la création du monde, de l'univers et ce moment. Mais en tout cas, pour nous, dans la Bible, c'est à partir du troisième chapitre. C'est très rapidement que nous voyons que nous tombons sur la chute de l'homme, la désobéissance de l'homme, parce que c'est ça le péché en fin de compte. Pour quelqu'un qui ne saisirait pas, ne comprendrait pas, et ça peut, c'est pas toujours évident de saisir, de comprendre qu'est-ce que le péché. Eh bien, on voit clairement et très simplement qu'est-ce que le péché dans ce passage. Le péché, c'est la désobéissance, tout simplement, à la parole de Dieu, à ses commandements, à ce qu'il nous demande de faire. La Bible dit, le péché est la transgression de la loi. C'est ainsi que nous voyons dans ce passage, donc Adam et Ève péchaient. Et quel était, entre eux deux, le premier qui a péché ? Mais quand on regarde Tout à l'heure, on l'a lu, c'est pour ça que j'ai pris ce passage. À partir du chapitre 2, on voit que Dieu a donné à l'homme la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Et on sait que le serpent était un animal des champs. Et il n'avait pas lieu d'être, il ne devait pas être dans le jardin. Et donc, on comprend que Adam a déjà failli à ce moment-là. Il n'a pas su garder le jardin, parce que s'il aurait gardé le jardin, le serpent n'y aurait pas été. Mais c'est vrai que par la suite, c'est Ève qui, premièrement, a vraiment enfreint ce commandement, cette loi que Dieu avait établie par rapport à cet arbre qu'il ne fallait pas toucher, qu'il ne fallait pas manger. Et par la suite, on voit donc ce passage où Dieu va parler et va revenir vers Adam et Ève. Et on voit ce moment où il va commencer à leur poser des questions, comme si on a l'impression, comme si Dieu ne savait pas. Où es-tu ? Il va poser cette question à l'homme. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Dieu connaissait tout, Dieu savait tout. Parce que Dieu voit tout et il sait exactement ce qui se passe dans nos vies, dans nos cœurs. Il sait quand nous désobéissons, il sait quand nous obéissons aussi. Il voit tout et on ne peut rien lui cacher. Il est Dieu. Mais on voit dans ce passage Dieu poser ses questions pour nous donner de comprendre que ce qu'il veut, c'est néanmoins, même quand on a failli, même quand on a péché, c'est toujours d'établir une relation, un dialogue, un échange avec nous pour nous pousser à confesser nos péchés, pour nous pousser à les reconnaître, à admettre que nous sommes pécheurs. Parce que dans ce passage, on voit justement que l'homme n'a pas avoué ses péchés à ce moment-là. Quand Dieu va venir lui poser cette question, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme va répondre, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre. » Et puis quand Dieu va parler à la femme, eh bien la femme va répondre, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Et encore aujourd'hui, bien c'est la même chose. Encore aujourd'hui, l'être humain réagit de la même manière. Quand on parle du péché, quand on lui parle de son péché, il fuit Dieu, il se cache, il cherche mille et une raisons pour se justifier. Ce n'est pas moi. C'est l'autre, ce n'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, c'est à cause des circonstances dans lesquelles j'ai grandi, des souffrances que j'ai subies. C'est la faute des autres, ce n'est pas moi. L'homme réagit encore aujourd'hui de la même manière. Il faut chercher le fautif, il faut chercher un coupable, un responsable, mais surtout sans jamais se déclarer coupable. Pourtant, la Bible nous montre vraiment la grande bénédiction, les merveilleuses conséquences qu'il y a d'avouer ses fautes, d'avouer son péché. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Un homme dans ce monde, même loin de Dieu, peut prospérer. Pour prospérer au niveau matériel, financier, professionnel. Mais il ne prospère point aux yeux de Dieu. Et il ne prospère point dans cette marche, dans sa vie, pour, par rapport à l'éternité. Un homme qui cache ses transgressions sera amené, comme je le disais tout à l'heure, à la ruine éternelle. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. On le voit encore au travers de ce verset. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Et il y a plein de passages dans la parole qui nous montrent justement des hommes, et parfois même des hommes de Dieu, des personnes parfois qui connaissaient Dieu, même des croyants, qui ont su se tourner vers Dieu et avouer leurs fautes, avouer leurs péchés. Et on voit vraiment, comme je le disais, les merveilleuses conséquences. J'ai pris ce passage dans le psaume 32, où nous voyons cet homme qui fait monter cette prière, qui dit à Dieu, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Tant que je me suis tu, il y avait ces souffrances même qui étaient physiques dans la vie de cette personne, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Qu'ainsi tout homme, toute femme te prie au temps convenable. Je t'ai fait connaître mon péché. C'est là la solution pour recevoir la grâce de Dieu, pour être restauré, pour être libéré, pour s'approcher de Dieu, pour être sauvé, faire connaître notre péché à Dieu. Bien sûr, il le connaît, comme je l'ai dit, il sait toute chose. Lui faire connaître, c'est l'exprimer, c'est l'admettre. Et dans ce passage, donc dans le Genèse, chapitre 3, nous voyons donc bien Ève, Adam, péché. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, nous voyons que la Bible nous indique que le péché est entré par un seul homme. On trouve ce passage par rapport justement à ce qu'a commis Adam. Et on trouve ce passage dans Romains chapitre 5, verset 12, où il écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Tous ont péché. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, dit la Bible. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché, nous avons tous désobéi, nous avons tous failli. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes, comme le dit ce verset. Alors, il ne s'agit pas que de la mort physique, parce que c'est vrai que la mort physique est une des conséquences du péché. Parce que le but de Dieu, la volonté de Dieu était qu'en créant Adam et Ève, c'est qu'ils vivent éternellement dans le jardin d'Éden. C'était qu'ils vivent éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre éternellement, mais dans sa présence, parce que l'homme vivra éternellement. Mais il vivra éternellement soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Et cette mort, c'est pas qu'une question de la mort physique qui est entrée dans le monde, c'est une mort aussi spirituelle. Je peux être en vie physiquement, mais être mort spirituellement, c'est-à-dire être séparé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Et cette mort, elle s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais dans le même chapitre, on peut voir à partir du verset 18, il est écrit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, la condamnation à l'égard du péché, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » En Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce passage dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Jésus-Christ est celui qui a accompli cet acte de justice, afin que nous soyons justifiés aux yeux de Dieu. » Et il a accompli cet acte de justice en venant dans le monde, non pas pour se faire servir, non pas pour trouver une place en tant que roi responsable, gouverneur dans ce monde, mais il est venu dans ce monde comme un serviteur, pour nous servir, la Bible nous dit. Et il est allé pour cela jusqu'à la croix, pour nous servir de rançon. Et à la croix, il a pris sur lui notre condamnation, il a pris sur lui nos péchés. Jésus-Christ a accepté de se dépouiller de sa gloire en tant que Dieu. Et il a accepté de venir sur cette terre, oui, comme un simple homme. Et puis, il a accepté de marcher dans l'humilité. Il a accepté d'être méprisé, d'être rejeté, pour venir nous sauver, pour venir nous racheter. Il a été abandonné, il a été roué de coups. On lui a placé cette couronne d'épines sur la tête. Et on l'a amené jusqu'à la croix. Il a accepté ses clous dans ses mains, ses clous dans ses pieds, pour chacun de nous, pour que nous puissions être sauvés. C'est là l'œuvre de Dieu, c'est là l'œuvre la plus grande, la plus extraordinaire, la plus merveilleuse que Dieu ait accomplie pour chacun de nous. C'est sa grâce, c'est son amour, c'est sa miséricorde, afin que nous soyons sauvés. Et si Dieu agit de cette manière-là, mais réalisons vraiment, si Dieu a agi de cette manière-là, si lui-même, lui qui est saint, lui qui est parfait, est venu lui-même sur cette terre, s'est fait homme et a pris sur lui notre péché, lui qui n'a jamais connu le péché, s'il a accepté de se faire pécher, la Bible dit, de porter le péché du monde sur lui, réalisons la gravité qu'il y a à rester dans le péché. Si Dieu a agi agit de cette manière pour venir jusqu'à nous, pour venir nous secourir. C'est ce qui doit nous donner, je crois, de réaliser combien est terrible d'être séparé de Dieu pour l'éternité, combien est terrible d'être perdu en enfer dans ce lieu de tourment, de souffrance éternelle. Et Dieu ne l'a pas voulu, et c'est pour cela qu'il est venu jusqu'à nous, et qu'il a accompli cela, cet acte de justice, afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons lavés, afin que nous soyons purifiés. Parce que c'est vrai que le pardon, s'il n'y avait pas eu la croix, on pourrait se repentir, ça ne servirait à rien. S'il n'y avait pas eu la croix, on pourrait demander pardon à Dieu de tout notre cœur, même sincèrement. On pourrait lui demander pardon 1000 fois, 100 fois, des milliers de fois. Mais ça ne servirait à rien. Si on peut recevoir le pardon de nos péchés, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Si on peut être restauré, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix. Si on peut être comblé, si on peut être en paix avec Dieu, si on peut avoir l'assurance d'être sauvé, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous, pour vous qui êtes là cet après-midi, pour toi qui ne l'as pas accepté. Jésus-Christ a payé le prix. Alors pourquoi Paul se considérait comme étant le premier des pécheurs? Pourquoi donc Paul dit Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, si, comme nous l'avons vu, si c'est Adam et Ève, Adam qui a commis, qui ont été les premiers des pécheurs. On voit vraiment cette humilité qui marque sa marche avec Dieu. Et c'est vrai que Paul se reconnaissait comme étant le premier des pécheurs parce qu'il a commis, il a persécuté l'Église, il a persécuté les chrétiens, il a commis des choses, il a mis à mort certains chrétiens, il a jeté des chrétiens en prison avant de se tourner vers Dieu, se tourner vers Jésus-Christ, de l'accepter, de devenir lui-même chrétien. Et c'est vrai que c'est par rapport à tout cela qu'il se considérait comme étant le premier des pécheurs. Mais c'est aussi parce qu'il se reconnaît comme étant pécheur, tout simplement, mais c'est aussi parce qu'il s'identifie, il s'identifiait au péché d'Adam. Il reconnaissait, il se reconnaissait responsable, coupable, il avouait ses transgressions, il ne rejetait pas la faute sur qui que ce soit, il ne cherchait pas un responsable son état de vie, sur son état de cœur, il admettait qu'il était pécheur. Il ne disait pas, mais non, mais c'est la faute à justement Adam et Ève, c'est eux les premiers des pécheurs, c'est à cause d'eux qu'on en est là. Non, il reconnaissait qu'il était pécheur, le premier des pécheurs. Et c'est précisément ce qui lui a donné d'obtenir miséricorde, comme nous l'avons lu. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Et dans ce passage, dans 1 Timothée, chapitre 1er, là où on a lu ce premier verset, justement, Paul va le dire à deux reprises qu'il a obtenu miséricorde. Et on peut voir justement comment il était avant sa conversion. Il va dire à partir du verset 13, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur contre Dieu, il blasphémait, il rejetait Jésus-Christ. » Croyait en Dieu, mais il rejetait Jésus-Christ. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai obtenu miséricorde. Et cet après-midi, Dieu veut te donner d'obtenir miséricorde. Dieu veut te donner d'obtenir son secours, sa grâce. Dieu veut te donner de cet après-midi obtenir quelque chose qui vient de lui. Vraiment, pour ta vie, pour ton cœur, pour ton éternité. Il ne veut pas te laisser repartir de ce lieu comme tu es venu. Mais il veut te donner d'obtenir, oui, d'obtenir sa grâce, de recevoir son amour. Pour cela, il nous appelle de la même manière que Paul a considéré que nous sommes les premiers, le premier d'une manière personnelle, le premier des pécheurs. Qui est le premier des pécheurs finalement? Eh bien, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Mais si nous avons été, pour ceux qui ont accepté le Seigneur, si nous avons été le premier des pécheurs, si à cause du péché nous avons été conduits dans ce chemin de perdition, le Seigneur est celui qui cet après-midi nous donne la grâce de choisir, de le choisir, afin de marcher sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Et il nous laisse le choix, il ne force personne. Cet après-midi, il ne forcera personne à obtenir, mais c'est ce qu'il veut. Et cet après-midi, il laisse le choix. Il nous laisse le choix de le mettre, lui, de mettre Dieu, de mettre Jésus-Christ à la première place, dans nos vies, dans nos cœurs. Parce que la Bible nous dit que Dieu, que Jésus-Christ a tout créé, par lui, que tout a été créé par lui et pour lui, qu'il est avant toute chose et que toute chose subsiste en lui, qu'il est le commencement, la fin, afin d'être en tout le premier. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui nous donne vraiment de recevoir tous les bienfaits de Dieu, de mettre Jésus-Christ à la première place. Quand on met Jésus-Christ à la première place, on sait que Dieu pourvoit, tous nos besoins, même matériels, mais qui pourvoit au plus grand, aux besoins de nos cœurs. Et qu'il est celui qui nous donne de pouvoir marcher vraiment comme il le veut, dans sa sainteté, de ne plus marcher dans le péché, de délaisser nos transgressions, nos péchés. Et quand on le met à la première place, il est celui qui nous donne les capacités. On ne peut pas se changer par nous-mêmes. On a, je pense, tous essayé, mais c'est impossible. Il n'y a que Dieu seul, qui puisse intervenir dans nos vies, dans nos cœurs, pour faire cette œuvre, nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Faire de nous une nouvelle créature, faire vraiment une transformation. C'est spirituellement que ça se passe. C'est pas toujours évident à saisir, à comprendre ce changement de vie, mais c'est l'œuvre de Dieu, et c'est véritablement ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est l'expérience qu'il veut te donner de réaliser aujourd'hui, d'expérimenter, mais afin d'être, je le redis, en paix avec Dieu, sauvé pour être avec lui l'éternité. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Alors cet après-midi, ne passons pas à côté. Passons pas à côté de la grâce de Dieu. Ne rejetons pas cette parole qui est vraiment certaine et digne d'être reçue. Amen. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, tu es ce Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui te révèle. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne de te connaître, de connaître la vérité. Et encore cet après-midi, tu nous parles. Tu parles à nos cœurs, à chacun de nous, afin que nous puissions t'appartenir, afin que nous puissions marcher dans tes voies. Oui, être tes enfants et être de nouvelles créatures, faire cette expérience, ce changement de vie. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui sont venus cet après-midi. Tu es celui qui est venu afin que nous soyons libre, afin que nous soyons réellement libres. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour répandre ta grâce qui nous donne d'obtenir miséricorde. Oui, parce que c'est parce qu'il y a ta grâce que nous pouvons obtenir miséricorde, ne pas être traités selon nos péchés, selon nos iniquités, mais de pouvoir recevoir le pardon de nos péchés et avoir cette assurance que tu effaces même, que tu oublies nos péchés. Seigneur, tu es ce Dieu, oui, merveilleux, ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, mais en même temps, tu es ce Dieu saint, ce Dieu juste. Cet après-midi encore, tu nous appelles afin de ne plus perdre de temps, afin de ne pas se perdre loin de toi. Et je te prie cet après-midi, afin que vraiment ceux qui sont loin de toi, ceux qui n'ont pas fait la paix avec toi, puissent prendre cette décision vraiment importante de se tourner vers toi, de t'accepter, de recevoir la vie qui vient de toi. Seigneur, oui, bénis tous ceux qui sont là, répands ta grâce au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Amen.